سوى لحظات.
Voilà, dans quelques instants, et ce sera la suite du programme de Remue-Ménage, nous restons dans des questions graves, mais racontées aussi avec tout le bonheur de l'anecdote, puisque c'est un récit, un témoignage que vous entendrez dans quelques instants, celui de Rina Nissim et Françoise Bloch, qui reviennent d'une semaine en ex-Yougoslavie, à Belgrade, invitées par les femmes en noir de ce pays.
Comme une fugue s'enfuit, comme une pierre polie, une plume se marie sur une feuille blanche nuit. Insomnie. Cette plaie, y a trop de dégâts à cet endroit. Cendrier, petite fumée, univers calligraphié, terros fatigué.
Ce que vous entendez, c'est Daniel Fleury et les Chic Types. Eh bien, Daniel Fleury, c'est une chanteuse suisse et que vous pouvez entendre en ce moment au Chat Noir à Genève tous les soirs à partir de 22h.
S'il te plaît, touche pas cette plaie, les mots ne sont pas morts, ils saignent encore. Comme l'encre noire, comme le hasard, comme une lettre dans la mémoire. Derrière les lueurs, des petits matins gris. Derrière les lueurs, des petits matins de pluie.
Donc je vous le disais, Daniel Fleury. Au Chat Noir, à Genève, tous les soirs pendant 7 semaines seulement. Maintenant, je vous propose, comme je vous le disais il y a quelques instants, d'écouter le témoignage de Rina Nissim et Françoise Bloch, deux femmes en noir de Genève, les deux femmes qui ont initié l'action des femmes en noir à Genève. Rappelez-vous, les femmes en noir, c'est un rendez-vous chaque mois sur la place de la Fusterie à Genève, mais c'est sur des places dans beaucoup de villes en Suisse et en Europe pour soutenir les femmes en noir en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie, ces femmes qui manifestent pour la paix, contre la guerre et contre les nationalismes. Rina Nissim et Françoise Bloch ont été invitées à passer une semaine à Belgrade, justement par les femmes en noir de cette ville et de ce pays. Alors, elles vont témoigner de ce qu'elles ont échangé avec ces femmes, de ce qu'elles ont vu à Belgrade, bien sûr, ce que des femmes leur ont raconté, puisqu'elles ont recueilli, elles aussi, le témoignage de beaucoup de quelques-unes de ces femmes. Et avant toute chose, eh bien, je leur ai demandé de nous spécifier quel lien il y a entre l'action des femmes en noir à Genève et en Suisse et en Europe, et l'action des femmes en noir en ex-Yougoslavie, et plus particulièrement à Belgrade, puisque c'est là qu'elles se trouvaient.
Rina. Alors nous avons commencé il y a bientôt une année, vers décembre 92, en fait à l'appel des femmes en noir de Belgrade, de Zagreb, de toutes les femmes qui s'opposent à la guerre, et spontanément dans d'autres villes d'Europe, dans d'autres villes de Suisse également, des groupes similaires se sont lancés pour être visibles au moins une fois par semaine là-bas, deux fois par mois ici, et s'opposer à la guerre, s'opposer à la purification ethnique et s'opposer aux violences dont les femmes sont victimes. Et là-bas, à Belgrade, à l'un de ces rassemblements, au deuxième anniversaire de leur rassemblement contre la guerre, elles appelaient les femmes de l'intérieur et les femmes de l'extérieur à une célébration.
Précise-moi juste une chose peut-être. Pourquoi les femmes en noir? Est-ce que c'était déjà une tradition de résistance parmi les femmes ailleurs?
Les femmes en noir, ça a été en premier employé en Israël, donc les femmes qui s'opposent et qui s'opposent toujours à garder les territoires occupés, qui voulaient que l'OLP soit reconnue et qu'un véritable dialogue s'installe. Et c'était aussi une reprise, sans doute, de las Madres de la Plaza de Mayo en Argentine, qui avait aussi employé cette même attitude, la présence régulière, déterminée à propos des disparus en Argentine.
Alors attends, pourquoi décembre 92 c'est parce qu'en fait, depuis quelques mois, nous entendions parler des viols qui avaient été commis, je veux dire, dans l'ex-Yougoslavie. Et je crois que c'est ça, en fait, qui a touché beaucoup les femmes européennes et qui les a fait se mobiliser spontanément avec des initiatives très, très locales sur ce soutien aux femmes de l'ex-Yougoslavie. C'était à partir donc de cette information sur les viols qui étaient commis et qui d'ailleurs, je veux dire, dont on ne parle plus. Hein. C'est-à-dire qu'on a l'impression comme ça, c'est ça un peu la manière dont fonctionnent les médias, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'information nous parvient, en fait, au fur et à mesure, elle fabrique de l'oubli. Donc c'est ce que nous avions marqué dans un autre acte, c'était qu'en fait, on ne pouvait pas oublier ce qui s'était passé, quoi. Donc c'est un peu pour ça qu'on l'avait créé à ce moment-là.
En l'occurrence, donc, comme vous l'avez dit toutes les deux, c'est donc des femmes européennes qui se sont bougées. Mais comment vous êtes rentrées en contact alors avec les femmes de l'ex-Yougoslavie qui, elles aussi, se sont constituées en femmes en noir et se sont aussi retrouvées une fois par semaine pour manifester silencieusement?
Alors, la communication est encore possible. D'une part, il y a les voyages, c'est-à-dire il y a certaines d'entre elles qui sortent de temps en temps et qui vont s'exprimer dans une autre ville d'Europe, qui ont l'occasion de faire passer quelques articles dans la presse éventuellement. D'autre part, il y a le fax, qui est une chose très précieuse pour nous. C'est notre manière principale de communiquer. Et de cette façon, on a pu recevoir leurs tracts, c'est-à-dire quelles étaient leurs revendications. Par exemple, tout un effort a été fait cette année sur les Nations Unies pour que les droits de l'homme soient élargis aux droits de la personne, et les femmes yougoslaves ou de l'ex-Yougoslavie étaient très présentes dans cette démarche. Donc c'est à leur appel quand même que nous nous sommes manifestés ici.
Donc vous alliez, comme tu l'as dit Rina, pour ce deuxième anniversaire de cette première rencontre, c'était le 9 octobre, et donc l'idée de ces femmes, c'était de réunir à la fois des femmes du pays qui, comme elles, résistent, et des femmes de l'étranger qui, à leur tour, manifestent leur soutien pour elles. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de cette retrouvaille? Est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient là? Racontez-moi un peu maintenant, dans le vif du sujet, votre présence en ex-Yougoslavie. Françoise?
Alors, il y avait effectivement des femmes qui étaient venues d'autres villes de Yougoslavie, principalement pour des raisons de communication, hein, je veux dire, parce que le pays est quand même en grande partie coupé. Nous avons dû, pour arrivé à Belgrade, faire un énorme tour à travers l'Autriche et la Hongrie. Donc, à cette rencontre, il y avait surtout des femmes de villes de Serbie, plus des femmes venant d'étrangers, enfin celles parmi... celles qui avaient pu obtenir un visa, parce qu'il y avait des Françaises, par exemple, qui souhaitaient venir à cette rencontre et qui n'ont pas pu obtenir leur visa. Donc nous étions plusieurs pays représentés, plus d'autres villes de Yougoslavie, et nous étions à peu près une cinquantaine de femmes qui avons soutenu ces femmes de Belgrade, qui d'habitude sont quand même moins nombreuses, compte tenu de l'hostilité, je veux dire que leur position... trouve dans l'idéologie dominante du pays en ce moment. Quoi.
Tu peux juste nous dire quels étaient les pays étrangers représentés ?
Alors, il y avait des femmes de l'Italie, de Vérone, il y avait des femmes de Budapest, il y avait des Américaines, il y avait des Anglaises qui sont arrivées malheureusement après le rassemblement, il y avait aussi une femme de Leipzig qui est arrivée aussi malheureusement après le rassemblement pour des raisons de communication, je dirais, un peu complexes. Il y avait donc, nous deux de Genève, de l'étranger, il me semble que c'était tout. Autrement, il y avait des villes, d'autres villes de Yougoslavie, soit du nord de la Serbie, soit un peu plus au sud, étant entendu que le pays, les communications ne sont pas très très faciles, quoi.
Mais elles ont aussi des rencontres où elles se trouvent tout ensemble, inclus la totalité de l'ex-Yougoslavie. Par exemple, tous les ans à Novi Sad, elles ont une grande rencontre où elles se trouvent vraiment tout ensemble, malgré les divisions et malgré la haine et les violences qui planent depuis 2 ans. Donc leur coordination, elle fonctionne véritablement et elle passe vraiment au-dessus de ces nationalismes qu'elles refusent toutes.
Alors on va peut-être revenir un peu plus en détail justement sur ce qui les bouge et ce qui les dynamise pour continuer à résister à cette guerre. Mais juste cette manifestation, alors avez-vous concrètement été dans la rue avec elle ? Je ne sais pas, j'aimerais un petit peu votre témoignage plus personnel peut-être à ce moment-là, mais qu'est-ce que ça veut dire d'être tout à coup les femmes en noir silencieuses réellement sur le territoire de la Yougoslavie plutôt qu'à Genève ?
C'était très très fort, hein. Enfin, moi, on allait pour les soutenir et puis en fait, ça nous a beaucoup aidé nous aussi. Hein. Parce qu'en fait, on était effectivement extrêmement silencieuses pendant 1 heure, donc, alors qu'ici, nous sommes plutôt pendant 1 demi-heure. Et puis, je crois que l'effet de masse a fait que beaucoup de gens se sont arrêtés. Et pour elles, c'était extrêmement important de voir qu'elle suscitait non plus l'hostilité, mais en fait un réel intérêt. Même si les gens n'osaient pas trop, venir nous rejoindre, il y avait d'autres femmes qui étaient là, qui s'arrêtaient, qui sont restées vraiment un long moment à regarder ces femmes qui, tout en silence, manifestaient leur hostilité à cette guerre et à l'idéologie qui l'a suscitée, en fait, c'est-à-dire l'idéologie de la haine, quoi.
Je crois que leur action comme la nôtre ne se limite pas à cette présence physique, mais malgré tout, le fait d'être visible dans la rue, dans cette protestation, c'est quand même quelque chose d'assez courageux. Il faut aussi savoir que si elles sont moins nombreuses, elles peuvent se faire cracher dessus, qu'elles sont listées dans certains journaux comme des traîtresses de la cause. Donc je crois que c'est quand même une formule qui permet d'être identifiée, mais d'être visuellement... de s'opposer à la guerre d'une manière visible.
Justement, parce que nous, quand on est à Genève, on ne prend aucun risque, bien évidemment. Donc là, quand tout à coup, vous êtes sur place, il y a une autre histoire. Il y a une confrontation avec des gens dont on sait qu'ils ne pensent pas la même chose que soi. Ici, à Genève, même si les gens... C'est plutôt à l'indifférence qu'on se heurte plutôt qu'à un désaccord grave, comme ça peut se passer là-bas.
Mais on pense aussi, et c'est ce qu'elle nous raconte, qu'il y a beaucoup de femmes et beaucoup de gens en général qui sont contre la guerre, mais qui osent peut-être pas le dire, et puis qui sont en fait parfois peuvent être soulagées que quelqu'un ose le dire, que quelqu'un se manifeste. Par exemple, on a entendu cette histoire qui se passe dans un bus. Une personne monte et commence à dire des insultes contre les Serbes et dire « Ah bah les Serbes, ces Serbes, tous des salauds !» Puis il y a un grand silence qui plane dans le bus où pourtant il y a une majorité de personnes qui sont bosniaques musulmanes. Et puis au bout d'un moment, il y en a un qui s'élève et qui dit « Mais enfin, c'est quand même pas vrai !» C'est pas tous les Serbes qui sont des salauds, et moi je veux continuer à vivre dans un pays où il y a des gens de toutes sortes de gens différents. Et puis beaucoup d'autres gens, d'autres passagers, pouvaient se sentir soulagés qu'il y ait une personne qui ait osé le dire, parce qu'ils n'osaient pas le dire, mais ils le pensaient quand même.
Alors, très concrètement, Maintenant, ces femmes, elles sont réunies bon, dans leur groupement Les Femmes en Noir. Il y a d'autres groupements de femmes, d'après ce que vous m'avez un petit peu expliqué tout à l'heure. Je crois que ce serait bien aussi pour nos auditrices d'expliquer un petit peu comment ça se passe. Parce que finalement, ces femmes, qu'est-ce qu'elles font concrètement pour résister à la guerre et prendre des positions telles que, par exemple, tu viens de le raconter, Rina, parce que chez nous, encore une fois, on prend position, mais c'est plus une façon d'affirmer notre soutien. Mais elles, c'est un engagement très concret dans la guerre immédiatement.
Enfin, moi, je voulais juste dire quand même que il est clair que c'est beaucoup plus confortable pour nous, je veux dire, d'avoir cette présence symbolique, place de la Fusterie, parce qu'en fait, on n'est pas directement menacé dans notre vie. Ceci étant dit, je pense que ce qui se passe en Yougoslavie, ça devrait nous interpeller extrêmement précisément par rapport à ce qui se passe aussi de ce côté-là de l'Europe. C'est-à-dire sur la montée, je veux dire, de la xénophobie, du racisme, de l'exclusion. Donc, je crois qu'on est aussi très concernés par rapport à cette guerre. On a souvent des réactions de personnes dans la rue qui nous disent « Non, mais on est très informés, on lit les journaux, on sait très très bien ce qui se passe. » En fait, les journaux, bon, un peu moins ces derniers temps, où il semble que quand même ils parlent un petit peu plus de la vie quotidienne, ce qui est justement le lot quotidien des femmes. Mais jusqu'à ces dernières semaines, nous entendions essentiellement parler des négociations, de l'échec des négociations, de renégociations, de l'avancée des fronts, je dirais, hein, du découpage, etc. C'est-à-dire tout ça, ça paraît un peu abstrait pour les gens. Hein. Donc je crois qu'ici aussi, on a quelque chose à faire avec cette guerre. D'autant que, bon, j'ai lu récemment dans le journal, en même temps que nous étions à Belgrade, il y avait une conférence qui se tenait à Vienne sur l'ensemble des pays européens. Et Havel a fait une déclaration que j'ai trouvée particulièrement remarquable en disant « L'Europe a raté déjà à deux reprises, je veux dire, la lutte contre le totalitarisme. C'était par rapport à la dernière guerre mondiale sur Hitler, ensuite Staline. Et comme on dit jamais 203, elle est en train effectivement de rater sa troisième occasion. » En fait, il est en train de s'instaurer, je veux dire, en Yougoslavie, un régime fasciste. Et je ne crois pas qu'on puisse être indifférent, je veux dire, à ce qui se passe en ce moment.
Chránila by tě má malá dlaň, žádá ti víc od slabé ženy, to nemoh by snad ani D'Artagnan, kdyby si zrak tvůj přijít mým unavený pravou chvíli neuměl zvolit zbraň. Kdybys byl spánkem přepadený, kdybys byl vidinami obelhán, kdyby kůň tvého zvěsilého žití ztrácel cestou všechny podkovy, a kdyby se slovy, co nenasytí.
Alors, le démarrage de tout ça, il faut quand même situer que nos amies féministes en ex-Yougoslavie étaient déjà organisées avant la guerre. Et heureusement, parce que peut-être elles auraient eu encore plus de difficultés à démarrer, la Yougoslavie est quand même un pays où le totalitarisme a étouffé complètement les initiatives d'organisation populaire, de vie associative, et que c'était un pays où les gens dépendaient d'une manière passive entièrement de l'État pour toutes les initiatives de la vie.
Et pourtant, on présentait quand même la Yougoslavie, Rina, comme quelque chose d'un peu plus cool que les pays asservis à l'Union soviétique, par exemple.
Économiquement, oui, mais au niveau de l'organisation de vie, pas tellement. Je crois, dans ce sens-là, ça s'assimile plus à l'ex-URSS, alors que je crois que la Tchécoslovaquie et la Pologne avaient quand même des mouvements populaires beaucoup plus forts, syndicalistes d'un côté, intellectuel de l'autre, peu importe, mais enfin, ça se faisait, ça discutait. Je crois qu'en Yougoslavie, ça ne discutait pas beaucoup.
Alors finalement, les femmes, comment elles ont réussi à créer ces groupements ? Alors, c'est des groupes très officiels qu'elles ont détournés ?
Alors elles avaient déjà des groupements préexistants et puis elles ont en masse, spontanément, elles sont entrées dans ces groupes anti-guerre dès le début. Et bien qu'elles étaient 95% de femmes dans ces groupes, elles se sont quand même rendues compte que souvent c'était encore les hommes qui étaient les porte-voix et qui contrôlaient tout. Elles se sont dit à un moment, il faut absolument qu'on fasse notre propre groupe à côté de cela et en plus de cela. Et donc, au tout début, la résistance était surtout de soutenir les objecteurs de conscience et les déserteurs, les aider à s'enfuir, en fait, parce qu'on ne peut pas être jeune et rester dans ces contrées maintenant sans se faire mobiliser de force. Hein. Donc, pendant tout un temps, ça a été cette forme-là de soutien. Et puis, comme la guerre continuait à durer et puis que les réfugiés commençaient à arriver en masse, je crois qu'autant le mouvement contre la guerre que les groupes de femmes qui se sont créés se sont tournés vers les réfugiés et puis ont essayé d'apporter une aide concrète dans la mesure de leur possibilité et de leur spécificité.
Et puis, bon, en plus, je veux dire, de la guerre, il faut voir aussi la situation économique dans laquelle les gens vivent. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est une des grosses actions en fait qu'elles mènent, qui est une action de solidarité quotidienne. Bon, la désorganisation, qui est liée selon le gouvernement serbe à l'embargo, mais qui dépasse très très largement le problème de l'embargo, parce qu'en fait, il y a une désorganisation totale de l'économie. Bon, quel est le pays qui pourrait en fait entretenir trois armées ? Parce qu'il y a les Serbes de Serbie, l'armée serbe de Croatie et l'armée serbe de Bosnie. Donc en fait, c'est l'ensemble de l'économie qui s'est effondrée et ces femmes sont confrontées dans la vie quotidienne, tous les jours, aux problèmes d'approvisionnement, par exemple. Hein, ce qui est quand même, on sait bien que c'est le lot des femmes. Hein. Donc ça participe aussi du type de solidarité qu'elles ont entre elles. C'est de s'organiser pour arriver, je dirais, à survivre dans des conditions de vie qui sont extrêmement, extrêmement précaires, bien que leur ville et la zone dans laquelle elles vivent n'est pas réellement en guerre, hein, contrairement à d'autres régions où les villages et les villes ont été démolis. Quoi. Donc ça participe de ce double mouvement, l'aide aux réfugiés et les supports pour la vie quotidienne.
Alors, vous l'avez juste avancé tout à l'heure, toutes les deux un petit peu, quelle est vraiment leur conviction de base qui les mobilise pour faire ce travail à la fois sur les réfugiés et sur la vie quotidienne ? Vous avez parlé, en tout cas, elles sont absolument antinationalistes, ça c'est une chose claire. Vous pouvez me développer un petit peu ça ? Quels sont, disons, leurs accords de base au niveau des idées qui les poussent en avant ?
Leur refus profond du nationalisme, leur refus profond de prendre leur camp, d'être d'un parti ou de l'autre. Il faut essayer de s'imaginer, c'est comme si ici à Genève, tout d'un coup, sur les quinzaines de groupes de femmes qu'on a, eh bien, on se retrouvait avec 12 ou 13 groupes de femmes qui auraient pris des positions nationalistes et puis qu'il resterait un ou deux groupes qui continueraient à dire « Ah non, nous, pas question ». On refuse d'entrer là-dedans. On veut vivre dans un pays pluriethnique ensemble. Hein. C'est donc, elles sont très minoritaires, mais elles sont quand même existantes. C'est une position fondamentale pour elles et de continuer donc à être solidaires les unes avec les autres par-dessus ces nouvelles frontières qui ont été créées. Et deuxièmement, il y a la dénonciation du sexisme. Elles étaient déjà existantes avant la guerre. Elles avaient déjà, par exemple, ce SOS téléphone, qui est une ligne téléphonique pour les femmes sur les violences, à cette époque, les violences conjugales. Elles dénonçaient déjà le sexisme de cette société, donc la position dans laquelle la femme est. Et voilà que la guerre éclate et que ces violences augmentent énormément en nombre. D'une part, les violences de guerre dont on a entendu parler, mais d'autre part aussi, la fascisation des mœurs dans leur propre ville. Elles estiment que le nombre de viols dans leur propre cité, la ville de Belgrade, l'ex-capitale, aurait doublé ou triplé. Ça veut dire que, il semble que ça se passe énormément après les nouvelles. Les nouvelles distillent une telle quantité de haine. Et l'homme se trouvant avec toute cette violence en lui et n'ayant pas d'ennemis idéal sous la main pour lui taper dessus, se retourne et tape leur femme ou viole leur ex-voisine. C'est évident que dans un contexte comme ça, on revit ce que signifie le sexisme d'une manière très, très, très brutale.
Mais la plupart des femmes que vous avez rencontrées, elles sont donc essentiellement serbes, s'il fallait les catégoriser, même qu'elles-mêmes se disent en dehors de tout nationalisme. Donc, elles sont justement de ce camp qu'on accuse de toutes les calamités et en plus de ces épurations ethniques. Et c'est elles qui osent le plus affirmer qu'elles veulent continuer à vivre avec les autres. C'est plus difficile pour elles, à votre avis, que pour les Croates ou les Bosniaques ?
Alors, d'abord, elles ne sont pas toutes serbes. C'est une première chose. Enfin, bon, mais elles ne se déterminent pas. Très peu donnent leur origine, entre guillemets, nationale. Il y en a qui disent « je suis originaire de Dubrovnik », par exemple, ce qui n'est pas du tout une région serbe. D'autres viennent de Sarajevo, d'autres viennent de Mostar. Je veux dire, elles ne se déterminent pas par rapport à une origine de type national. D'ailleurs, en fait, c'est un mythe. Je veux dire, bon, ça, on a eu des longues discussions avec une femme là-dessus. En fait, la Yougoslavie n'a jamais, enfin, aucune de ces communautés n'est arrivée à un état de nation. Hein. Donc, il y a une espèce de mythe qui est entretenu d'une nation pure, mais qui n'a jamais existé en tant que telle, ni sous forme de nation, ni sous forme d'État. Donc, la plupart d'entre elles ne se déterminent pas par rapport à une origine de cet ordre.
Il faut quand même dire qu'il y a eu beaucoup de mariages mixtes. Donc ça veut dire dans chacune des vies de ces femmes, il peut y avoir un grand-père serbe, mais qui avait épousé une croate. Enfin, il peut y avoir tout un mélange. Hein. Il n'y a pas une lignée nette serbe ou une lignée nette croate.
Oui, mais on sait que c'est ce qui a partagé les familles, par exemple, justement.
Oui et non, parce que... Dans les villes aujourd'hui, même dans les villes occupées, il y a encore côte à côte des Serbes et des Bosniaques musulmans et des Bosniaques croates, par exemple, si on prend l'exemple de la Bosnie. La division ne s'est pas faite complètement. Bien sûr, pour venir se réfugier dans une famille de cousins, ben, si on a dans sa famille un Serbe, on va peut-être venir se réfugier dans sa famille, bien évidemment. Mais même là encore, le tissu est mélangé. Ceci dit, je crois que ce n'est pas forcément plus facile pour les Croates non plus, parce qu'elles aussi, elles vivent dans une région où le nationalisme est virulent et où le mythe héroïque est tout aussi dément que le mythe héroïque serbe. Donc ça veut dire qu'elles aussi, elles se trouvent dans une situation où elles recueillent des réfugiés d'une région où leur propre gouvernement est en train de faire une purification ethnique aussi. Hein, donc je crois qu'elles partagent ce malheur.
Toutes des traîtresses.
Absolument.
Mais par exemple, je peux te lire là l'extrait d'un entretien que nous avons fait, pour des raisons évidentes, s'est fait en serbo-croate, donc traduit en anglais, et ensuite que j'ai retranscrit en français. C'est une femme qui est réfugiée donc de Mostar, qui ne se détermine pas, je veux dire, par rapport à son origine réellement, bon, qui de fait est serbe, et qui dit « Mostar est devenue croate ». C'est une ville où j'aimerais revivre, mais je ne peux plus y retourner. Je n'ai plus de passé, je n'ai pas de futur, je ne sais pas où mes enfants vont aller vivre. Peut-être que certaines personnes oublient, mais je ne peux retourner dans l'ancienne Bosnie où je vivais, où nous vivions tous ensemble. Ça n'est plus possible. Je ne veux plus aller vivre dans cette Bosnie clean, nettoyée. Donc, hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très fortement porté par ces femmes qui sont justement sur des positions qui ne sont pas de type identitaire national. Quoi. Et elles ne se déterminent pas. Bon, la même chose pour cette femme de Sarajevo que nous avons interviewée. Elle ne se détermine jamais, je veux dire, par rapport à une origine nationale. Ce qui est quand même intéressant, est-ce que c'est seulement les femmes qui sont dans cette position-là ou est-ce qu'il y a aussi des hommes ?
Mais il y a aussi des hommes. Par exemple, la femme dont tu parles de Sarajevo, eh bien, elle est venue se réfugier avec ses deux enfants en bas âge parce qu'elle vivait dans un garage toute la famille et les autres, c'était pas mieux. Ils vivent une quinzaine par pièce. Donc, ils avaient un cousin à Belgrade, donc on l'a envoyé avec les deux gamins. Ils sont restés sur place dans sa famille immédiate, son mari et son père qui sont serbes et qui sont profondément déterminés à rester à Sarajevo. Et qui défendent l'espoir que cela reste une ville mixte, mélangée.
Rigo,
Aujourd'hui, dans Remue-Ménage, nous vous proposions un premier échange avec Rina Nissim et Françoise Bloch. Elles ont encore beaucoup d'autres choses à nous raconter sur ce qu'elles ont vécu en compagnie des femmes en noir à Belgrade qui les invitaient pour passer une semaine et entre autres marquer le deuxième anniversaire du début des manifestations des femmes en noir. La semaine prochaine, eh bien, vous pourrez écouter la suite de ces deux témoignages, celui de Rina Nissim et Françoise Bloch, les récits qu'elles ont à faire sur la vie quotidienne, comment ces femmes continuent à se battre au jour le jour, comment, excusez-moi, et comment nous pouvons nous aussi les soutenir. Je peux d'ores et déjà vous le dire, les femmes en noir de Genève, par l'intermédiaire de Rina Nissim et Françoise Bloch, ont choisi de soutenir un projet médical en Bosnie, que vous pourrez soutenir financièrement bien sûr et moralement en continuant à venir vous réunir sur la place de la Fustrie. Le prochain rendez-vous est le 5 novembre, donc c'est le premier jeudi de chaque mois de 17h à 18h. Et donc la semaine prochaine, eh bien, Rina Nissim et Françoise Bloch vous raconteront la suite de leur périple qui parfois prend aussi des allures un peu rigolotes. En conclusion de leur témoignage, elles vous raconteront les conditions dans lesquelles elles sont rentrées en Suisse. Dans le train, il se passe parfois des choses assez étranges dans les trains qui traversent des zones de guerre et où les gens ont peur et non plus aussi pas les choses qu'il leur faut. Donc c'est un petit peu l'attaque de la diligence, vous le verrez par moments.